première, la personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 24 mars 1999 à Saint-Josard.
Merci de vos prières. Et nous allons continuer sur l'épanouissement, la naissance de la prudence, sagesse pratique pour les anciens. C'est le moment où, au plan spirituel, au plan de notre intelligence,
et ceci, c'est le signe, je
que du côté de l'intelligence. Ça, on peut s'en apercevoir expérimentalement. C'est même très curieux qu'on arrive à dominer beaucoup plus le corps et la fatigue du corps par le point de vue de l'intelligence que par le point de vue affectif. Alors, essayons de comprendre comment l'intelligence contemplative, l'intelligence spéculative, mathématique et toutes les sciences, le corps ne joue qu'un rôle instrumental qui demande d'être dépassé. Le corps va être présent par l'imagination et la mémoire. C'est là où il joue un rôle capital. Le corps n'est pas seulement instrument de l'imagination, il est essentiel. Le corps n'est pas seulement instrument pour la mémoire, il est essentiel. Il y a un organe biologique de l'imagination et de la mémoire. Ce qui fait que le corps coopère essentiellement à l'imagination, à la mémoire. C'est pour ça que notre irascible, qui est la passion affective, joue un rôle très important pour l'imaginaire. Quelqu'un de très irascible, si durant la journée, il a été constamment obligé de lutter contre son irascible. S'il avait l'autorité, par exemple, il n'y a rien de tel pour lutter contre l'irascible que d'exercer l'autorité. Parce que quand on exerce l'autorité, qu'on est toujours en colère, ça se sait. Je me souviens, dans un collège des pères jésuites, fait des études était d'une irascibilité remarquable. Et on avait tout de suite découvert ça. Et donc, le seul but, chaque fois qu'il venait, pour, comme préfet de discipline, on le mettait en colère. On avait découvert ça, on l'avait lié. J'avais donné un surnom d'irascible, parce que c'était vraiment préfet d'études irascible. Il n'a pas pu rester une seconde année. Par son irascible, on l'a dégommé. Parce qu'il ne se dominait pas. Donc il ne pouvait pas exercer l'autorité. C'est un exemple très net que l'irascible, passion, lorsqu'il s'agit de l'affectivité, d'exercer l'autorité, joue un rôle qui n'est pas et qui ne doit pas être déterminant, mais qui peut venir très vite déterminant. Et à ce moment-là, il empêche la prudence et donc l'acte d'autorité, l'imperium, de s'exercer. L'imperium est un acte d'intelligence pratique. Et quand l'irascible est trop fort, donc quand le corps passionnellement est trop présent, l'imperium devient impossible. Il devient exagéré. Alors on envoie des ordres à droite, à gauche, comme on prend son épée à droite, à gauche pour faire de la place. Mais en réalité, l'imperium ne se fait plus. C'est l'affectivité qui est irascible. Voyez, c'est là où on s'aperçoit que du côté affectif, du côté volontaire, les vertus de force, de tempérance, de justice sont essentielles pour l'exercice de la prudence. Quelqu'un qui n'a pas de vertu, de force, de justice, de tempérance, ne peut pas exercer l'autorité. Il est trop émotif. chercher la vérité quand vous êtes impatient. Quand vous attendez pendant une heure à la porte d'un supérieur et que vous commencez à être impatient, vous ne cherchez plus la vérité. Si au contraire, d'avance, vous êtes dit, ça durera peut-être une heure, je vais chercher tel ou tel problème pendant ce temps-là. Je vais prendre tel livre et je vais chercher. Ça se passe très bien. La prudence, elle prévoit pour être gardienne. Le gardien prévoit. Celui qui ne prévoit pas ne peut pas être gardien. Et la prudence prévoit, dans l'ordre pratique, les moyens nécessaires pour atteindre ma fin. L'amour d'amitié, la recherche de la vérité, ces deux finalités, l'une plus fragile parce que je n'ai pas encore découvert l'existence de Dieu. Je ne sais pas s'il existe, donc je ne peux pas m'appuyer dessus. Il n'y a pas encore l'éclosion plénière de la contemplation. Et, point de vue amour d'amitié, je sais que cet amour d'amitié peut m'aider beaucoup dans cette recherche de la vérité. Que cet amour d'amitié peut être pour moi source de paix, de joie, d'épanouissement, et donc me calmer, mettre en moi une possibilité de dominer les passions inférieures. Donc, le premier moment de la prudence, c'est être gardienne du temps qu'il faut pour la recherche de la vérité, pour l'amitié. Ce qui exige de connaître tout ce qui risque tout le temps de m'éparpiller, d'aller à droite et à gauche, l'imaginaire. La prudence joue en premier lieu sur notre imagination. Parce que l'imagination, c'est très bien, mais ça ne me donne pas la vérité. Ça peut m'exciter, ça peut être un excellent élément pour me réveiller, mais elle ne me donne pas la vérité. Donc je dois tout de suite surveiller mon imagination et ne pas l'alimenter inutilement. Alors voyez tout ce que la prudence peut faire dans notre monde d'aujourd'hui. J'ai le poste de télévision à côté de moi. Je pourrais, quand j'ai aucune idée, et que je blanchis devant ma feuille blanche, et que ça ne va pas du tout, je ne sais pas ce que je vais dire. Peut-être que la télévision va me donner des idées. C'est plus intéressant, c'est plus facile à vivre. Toujours la facilité. L'imaginaire, c'est toujours la facilité. Ça coule douce. Et c'est pour ça que l'imaginaire n'aime pas les vertus. Et elle se développe dans notre monde d'aujourd'hui autant qu'elle peut. Le plus de temps possible. On perd un temps énorme. Alors ça, c'est la prudence consiste à prendre une vision claire là-dessus, selon l'intelligence pratique. Le temps m'appartient, il m'est donné. Je dois le faire fructifier. C'est mon champ que je dois faire fructifier. Je peux faire de mon imagination quelque chose de très grand. Je peux aussi être esclave de mon imagination. Et ça, l'intelligence pratique se l'aperçoit tout de suite, par la finalité, par l'amour de la vérité. C'est l'amour de la vérité qui peut canaliser mon imagination. Premier point. Deuxième point. Je dois prendre conscience de ces forces intérieures que représentent les passions. Connais-toi toi-même. abscondé du côté de la recherche de la vérité, canaliser notre imagination, on se connaît d'une manière encore plus immédiate, en connaissant son concupiscible, la passion du concupiscible, qui est bonne. Avoir un amour sensible, la passion du concupiscible, être capable d'aimer ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est d'ordre sensible. Connaître le concupiscible et faire l'analyse du concupiscible pour l'aider davantage. Les diverses passions du concupiscible, c'est très important. L'amour, le désir, la joie, la jouissance. Trois passions positives, trois passions négatives, la haine. Le point de vue du désespoir, plus de désir. On est replié sur soi, on a essayé plusieurs fois, on est retombé sur soi-même. Les ennemis sont trop forts. Espera. comment les vertus naissent à cause de la prudence. La prudence a besoin des vertus. La prudence ne peut pas s'exercer sans les vertus. Oui, alors, elle est gardienne de l'imagination et les vertus morales, justice, force, l'analogie des phares de brouillard. C'est exactement ça. Au début, la prudence est un phare de brouillard à l'égard de l'imaginaire, à l'égard du concupiscible, à l'égard de l'irascible, très faible. Il n'y a qu'une seule chose qui reste claire, la limite de la route. Mais devant moi, rien du tout. Mais la limite, ça se voit. Force de son intellect pratique, de l'imaginaire. ce n'est pas un été noir. La loi peut être un été noir, mais pas la prudence. Parce que la prudence, elle vient de l'intérieur et elle veut se servir de toutes les passions intérieures le plus qu'elle peut pour aller le plus vite possible à l'acquisition de la fin. La prudence n'est pas du tout un frein. C'est ordonné d'une façon la plus intelligente tous les moyens en vue de l'acquisition de la fin. Et je prendrai de temps en temps le moyen le plus rapide qui peut être le plus périlleux. Mais je peux le faire. Matin, c'est possible, je peux faire ça. Le soir, à partir de 10h du soir, je suis un peu fatigué. Alors, ce serait dangereux de prendre ça. C'est prudent qui fait ça. L'homme prudent mesure ses forces à travers la journée. Il sait sa fatigue et il sait renouveau dans lequel il se trouve. Il connaît ça. Il saura aller jusqu'au bout. Oui, c'est tout à fait différent de la caricature du prudent. Et quand on dit en France la prudence du normand, c'est-à-dire de celui, il dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et puis il hésite indéfiniment. Il est prudent parce qu'il ne prend jamais de décision. Mais c'est la souveraine imprudence. Ne jamais prendre de décision. Mais c'est le contraire de la prudence. La prudence me rend capable de poser des actes, de me commander à moi-même, l'impérium. Je me commande à moi-même. Je dois faire ça. Et je le ferai. Peu importe, je sais très bien qu'il y aura à côté de moi des quantités de gens qui diront non, non, le fais pas. Je le ferai, parce que j'ai bien pesé, et je sais que je peux le faire, mais je le ferai le matin, pas le soir. Parce qu'on sait, voyez, le prudent est audacieux. Et c'est là qu'on voit un véritable homme prudent. Il est audacieux. Il n'hésite pas à certains moments de prendre des décisions qui, tous ceux qui sont autour, disent, t'es un peu fou. Et la caricature de la prudence, c'est d'oublier que l'acte de prudence est un acte d'intelligence. C'est la vertu morale de l'intelligence pratique. Et c'est très intelligent, la prudence. Et prenez la comparaison des phares de brouillard, mais de très bons phares de brouillard. J'arrive à me diriger en sachant exactement la distance que je vois, exactement sur le côté où c'est net. Et je conduis. Et j'arrive à faire quelqu'un qui autrement dira non, non, aujourd'hui, non, il faut que je me passe. On ne voit rien du tout. Soyez prudent. La prudence, pour nous chrétiens, pour nous religieux, pour nous saints gens, demande une très grande force pour ne jamais avoir peur de poser une décision. À ce moment-là, d'acquérir dépasser les obstacles. La prudence s'exerce au milieu de lutte. On ne retourne pas au paradis terrestre. Défendu de retourner au paradis terrestre, parce que c'est une tentation constante pour nous. Et ça, j'ai le droit, en tant que philosophe, de regarder. Je dirais que c'est un mythe merveilleux, de voir qu'après le péché, il y a un ange avec son épée flamboyante qui interdit d'entrer dans le paradis terrestre. Parce que j'ai une tentation énorme dès que ça a bien marché. Vous voyez, au noviciat, les 8 premiers jours, oui, c'est beaucoup moins dur que je le pensais. C'est beaucoup moins dur que je pensais. Je croyais que c'était beaucoup plus difficile. Permettre derrière, souris, et attendons un peu. Attendons le carême. C'est beaucoup moins dur que je pensais. Alors, à ce moment-là, on se détend. Et on commence à couler dans tous les sens. On ne lutte plus. Et on perd sa vocation. La vocation, c'est une œuvre commune de Dieu et de nous, dans l'amitié et dans les luttes. Quand on dit que quelqu'un a perdu sa vocation, 50% ça revient de lui, 30% des autres autour, et puis un tout petit peu d'avoir oublié de prier. On lutte, on lutte, on lutte. On doit lutter tout le temps. Et la prudence s'acquiert dans la lutte. Parce que l'intelligence aime ce qui est net, précis, déterminé. Elle aime ça. Elle n'aime pas tellement le velours. Vous avez cette expression qu'on disait de Mauriac à l'égard d'un écrivain chrétien beaucoup moins génial que Mauriac, mais qui faisait de la propagande énorme de ses livres et gagnait énormément d'argent, tout le monde le savait. Alors évidemment, ça se voyait à l'extérieur, l'automobile, les vêtements, tout ça. Alors Mauriac passe tout près de l'épouse de ce chrétien. Manteau de fourrure magnifique. Oh mon doux Jésus. Oui, c'est très bon, rien que pour ça, c'était extraordinaire. Parce qu'au fond, il aimait la lutte, mais il était faible. Alors il voyait combien la fausse douceur vous emprisonne. Rien ne vous emprisonne plus que la fausse douceur. La vraie douceur est toujours le fruit d'une conquête, d'une lutte. Alors, Mauriac sentait ça, cette fausse douceur qui vous emprisonne, mon doux Jésus. Et la manière dont il le disait, c'était extraordinaire quand il racontait cette histoire. Je l'ai entendu de lui. Alors, le doux Jésus de Mauriac, parce qu'on sait que Mauriac, c'était l'homme qui voyait tous les défauts. Mauriac novice aurait tous les soirs dit au père maître toute la lutte et défauts de tous les frères qu'il avait rencontrés dans sa vie. Il voyait que cela, les défauts, tout de suite, et en vivre tous. L'homme prudent est celui qui dépasse cet aspect négatif constant dans un monde. Si on ne voit que l'aspect négatif, on ne construit plus rien. On ne fait plus rien. La vraie prudence, donc, lutte contre ce primat de la négation. Je crois que l'échec le plus grand de notre monde d'aujourd'hui, avec ce primat de la négation, c'est justement qu'il n'y a plus de prudence. On ne prévoit plus. On est pris emprisonné par la négation. Qui vous sert, qui vous sert, qui vous prend. Donc, dépassez ça pour avoir le prix bas de l'affirmation. On ne construit que sur une pierre solide auquel on sait qu'on peut construire. Et puis, le fait d'avoir une imagination terriblement fertile qui croit avoir conquis tous les cœurs tout simplement parce que on vous a fait un sourire. Alors on a conquis tous les cœurs. La naïveté, c'est curieux, vous voyez, l'excès de critique et la naïveté sont les deux extrêmes qui sont les ennemis majeurs de la prudence. Parce que la prudence, c'est une intelligence qui demeure toujours audacieuse, mais une intelligence qui sait aussi les limites d'une bonté sensible, d'une bonté humaine, et qui ne croit pas avoir gagné le cœur de quelqu'un uniquement parce qu'il y a eu un petit sourire, il y a eu un geste de bonté. La prudence, c'est cette sagesse, et je crois qu'on a raison de dire que c'est cette sagesse, parce qu'elle ordonne. Vous voyez, comme il y a un jugement de sagesse à partir de la création, il y a un jugement de sagesse à partir de mon intention profonde qui touche ma fin et je tends vers ma fin. La prudence vit de ce jugement pratique, de cet amour pratique, ce jugement affectif d'intention. J'ai l'intention de conquérir de plus en plus la vérité, de la rechercher avec le plus d'amour possible. J'ai cette intention, c'est mon intention. Si j'ai découvert l'existence de Dieu, mon intention, c'est de le contempler. La prudence s'appuie de toutes ses forces sur cette intention. Elle la fait sienne. Elle est toujours en acte, le plus possible en acte. Et dans la lumière de cette intention, je juge de la valeur de tel ou tel moyen. Je juge ses difficultés. Je vois s'il est en code naturalité avec moi, s'il est en code naturalité avec la fin. Et j'essaie de choisir le moyen qui sera le plus efficace, qui m'aidera à acquérir ma fin le plus vite possible, qui me permettra de rencontrer tel ou tel ami qui pourra m'aider. Il y aura toute cette astuce, vous voyez, d'établir un plan de guerre, de lutte, pour acquérir la fin. Et c'est le propre de la prudence d'ordonner et de mettre toute l'efficacité de l'amour que j'ai pour la fin au service des moyens, pour que ces moyens, je puisse facilement les obtenir. Faites un petit examen de conscience sur votre prudence. Et vous essayerez de voir à quel niveau elle est, si elle a commencé, si elle est encore très embryonnaire. Parce que c'est exactement ça, tu vois. La prudence commence dans la réflexion que je fais sur mes activités, sur mes capacités. Un beau jour, je dois agir à l'extérieur. Je sors du sein maternel pour agir. Et là, toutes les flèches peuvent venir. J'entends. Tout est critique. Et ces critiques dures, qui quelquefois me cassent complètement et m'empêchent complètement d'agir. Et puis j'avance, lentement. Et puis je rencontre des amis. Et puis je vois que ces amis ne sont pas vrais. Ils deviennent des ennemis. Et ainsi de suite. Et de plus en plus, je vois l'importance de mes amis.